Chapitre 5. La brise tiède qui soufflait sur les remparts de la forteresse ébouriffa les cheveux récemment raccourcis de Magda, faisant voler des mèches rebelles devant ses yeux. Tout en avançant, la jeune femme se passa une main sur le crâne pour remettre un peu d'ordre dans cette tignasse. Une tignasse, peut-être, mais qui lui arrivait désormais aux épaules alors qu'elle cascadait jadis jusqu'au creux de ses reins. Avoir ainsi perdu sa chevelure lui donnait une impression étrange, comme si elle n'était plus tout à fait la même personne. Beaucoup de gens, et les femmes en particulier, accordaient une grande importance à la longueur des cheveux d'une dame. Même si ça n'était pas toujours vrai, ce détail, la plupart du temps, révélait le statut d'une femme et indiquait donc sa place dans la société. Dans un monde où il pouvait être payant de flagorner la bonne personne et mortellement dangereux d'énerver la mauvaise, savoir à qui on avait affaire était vital. L'épouse du premier sorcier avait le droit d'arborer des cheveux bien plus longs que la moyenne. En conséquence, la plupart des femmes qui portaient les leurs plus courts ne manquaient presque jamais de la couvrir de flatteries. Si elle ne prenait pas au sérieux ses courbettes intéressées, Magda s'efforçait de cacher qu'elle n'était pas dupe, car elle savait que c'était sa position, non sa personne, qui fascinait ses admiratrices. N'étant pas de haute naissance, elle devait cependant reconnaître que sa crinière brune lui avait ouvert bien des portes. Grâce à elle, des gens haut placés l'avaient écoutée sur des sujets qui lui tenaient à cœur. Profondément attachée à Baracus, elle ne l'avait en aucun cas épousé parce que ça lui permettrait de s'élever sur l'échelle sociale, mais elle ne niait pas non plus que ses cheveux longs, conséquence directe de cette union, lui avaient souvent été fort utiles. Aimant en outre l'allure qu'il lui donnait, elle ne s'était pourtant jamais crue distinguée par un attribut de pouvoir qu'elle n'avait rien fait pour mériter. Habituée à porter les cheveux longs durant toute l'année où Baracus lui avait fait la cour, puis pendant les 2 ans de leur union, elle n'aurait pas été surprise qu'il lui manque. Mais il n'en était rien. Baracus seul lui manquait, et ça c'était irrémédiable. Son somptueux mariage avec le premier sorcier semblait remonter à une éternité. Elle était si jeune à l'époque. En un sens, elle était encore, mais ça ne comptait plus. Quant à sa crinière, ne plus la voir était d'une certaine façon une libération. Redevenue une femme comme les autres, elle n'avait plus besoin de se montrer à la hauteur de ce que les gens attendaient d'elle. Désormais, elle était de nouveau elle-même, plus un symbole sursignifié par quelques marques artificielles. Une libération, vraiment? Eh bien oui, puisqu'elle n'avait plus à se conformer à des règles contraignantes. Sans statut, sans pouvoir et presque sans existence, elle venait de s'échapper d'une prison, dorée peut-être, mais qui restait une prison. Cela dit, et pour des raisons bien plus graves que ces histoires de cheveux, plus rien de tout ça n'avait d'importance. Parce qu'il l'aimait, Baracus lui avait offert une nouvelle vie. Sans lui, elle n'était qu'une ombre, et dans cette équation, son rang ne jouait aucun rôle. Quand elle eut atteint l'endroit qui s'était gravé au fer rouge dans sa mémoire, Magda grimpa sur les créneaux et se pencha pour contempler le gouffre. Un à-pic de plusieurs milliers de pieds s'offrait à elle, attendant simplement qu'elle fasse un pas en avant. Au-delà des fondations de la forteresse, la chute continuerait encore longtemps jusqu'à ce qu'elle s'écrase sur les mêmes rochers que son mari. À une telle altitude, bien au-dessus des nuages qui dérivaient dans le ciel, il était difficile de distinguer le fond du gouffre. En un sens, Magda se tenait sur le toit du monde, et cette idée lui donna le tournis. Ici, elle se sentait petite et insignifiante. Un fétu de paille que les bourrasques pouvaient à tout moment faire basculer de son perchoir. Flotterait-elle ensuite sur les courants aériens, telle une feuille morte portée par la brise? À ses pieds s'étendait Aydindril, une splendide cité qui prenait naissance au pied de la montagne et se déroulait majestueusement sur une série de collines moutonnantes. De grands champs verdoyants l'entouraient, faisant office de frontière entre la résidence des hommes et une fantastique forêt. Bâtie à flanc de montagne, la forteresse du sorcier semblait monter la garde sur la ville qui brillait au soleil comme un joyau. Plissant les yeux, Magda vit des paysans qui revenaient des champs avec leurs chariots tirés par des chevaux. Partout dans la vallée, à cette heure où les femmes préparaient le dîner, des filets de fumée montaient des cheminées de pierre. Dans les rues, des badauds flânaient devant les boutiques, tandis que d'autres citadins, marchant à grandes enjambées, se dirigeaient vers le lieu de quelque mystérieux rendez-vous. Si elle voyait vivre la cité, Magda n'entendait pas le bruit des sabots, le grincement des roues de chariot ou les cris des vendeurs à la sauvette. À cause de la distance, les sons familiers n'atteignaient pas la forteresse, surtout quand les gémissements du vent étaient si forts qu'ils couvraient jusqu'aux appels des oiseaux qui sillonnaient le ciel. Pour Magda, la forteresse était un sanctuaire de silence. Des centaines de personnes y vivaient, elle le savait, mais ça ne changeait rien. Malgré les hommes et les femmes qui travaillaient et élevaient leurs familles dans les normes complexes, le fief du premier sorcier restait un monde de silence et de sombre sérénité. Au pied de l'incroyable édifice, les siècles s'écoulaient, foisonnant de vie et de mort, mais ça n'avait aucune influence sur l'immense sentinelle qui veillait inlassablement sur eux. La vie de Barakus avait pris fin à l'endroit où Magda se tenait à présent, voyant très exactement ce qu'il avait vu avant de se jeter dans le vide. Un instant, Magda pensa qu'elle n'avait aucune envie de l'imiter en réalité, mais une petite voix tout au fond de sa tête lui rappela qu'elle avait tout perdu. À quoi bon s'accrocher à la vie dans ces conditions? Alors qu'elle regardait le paysage que son mari avait eu sous les yeux avant de mourir, elle tenta d'imaginer les pensées qui avaient sûrement dû tourbillonner dans sa tête alors qu'il se savait en train de vivre ses derniers instants. Avait-il songé à elle avant de sauter? Ou en avait-il été empêché par le terrible poids qui pesait sur ses épaules et sur son âme? Quoi qu'il en soit, l'idée de devoir quitter ce monde et abandonner sa bien-aimée avait dû lui briser le cœur. Choisir ainsi la seconde précise de sa fin, quelle torture! Mais Barakus avait aimé la vie, et il ne s'était sûrement pas suicidé sans avoir de puissantes raisons. Avant de plonger à son tour, Magda devait se souvenir de l'homme qu'il avait été presque jusqu'au bout de son existence. Un être fort et doux à la fois que rien n'aurait su abattre, enfin rien que sa femme aurait pu imaginer. Tout avait changé et rien ne redeviendrait comme avant. Le monde était différent, à moins qu'il ait disparu tout simplement. Magda eut soudain honte de se focaliser ainsi sur son malheur et son deuil. Avec la guerre, l'univers de bien des gens avait disparu à jamais. Les veuves des hommes choisis par Barakus, par exemple, devaient toujours attendre le retour de leur mari, sans vraiment y croire, mais qu'y avait-il au monde de plus indestructible que l'espoir? Un espoir tout à fait vain, Magda le savait parce que Barakus le lui avait dit. Mais comment les veuves auraient-elles pu se résigner? Et les femmes des soldats tombées au champ d'honneur, qui criaient de désespoir lorsqu'on leur annonçait l'atroce nouvelle, n'étaient-elles pas à plaindre aussi, tout comme les orphelins dont elle aurait désormais la charge? Comme Barakus, Magda détestait la guerre et le terrible tribut qu'elle faisait payer à l'humanité. Tant de morts déjà, et combien à l'avenir? Car rien n'indiquait que les choses s'arrangeraient bientôt. Pourquoi la paix n'avait-elle jamais vraiment sa chance? Pourquoi fallait-il toujours que des fous soient épris de pouvoir et de conquête? Tant d'autres femmes que Magda avaient perdu leur mari, leur frère, leur père ou leur fils, et combien étaient mortes victimes du conflit. D'autres succomberaient, et on ne voyait toujours pas au bout du tunnel briller la lumière de l'espoir. Au fond, il était honteux de se lamenter sur soi-même alors que tant d'innocents enduraient les mêmes souffrances. Pourtant, Magda ne pouvait s'empêcher de ployer sous le poids de son malheur, ses sanglots intérieurs résonnant dans sa tête comme un océan de soupirs. En même temps, elle éprouvait une vive culpabilité vis-à-vis des amis qu'elle abandonnait. Comme Tilly l'avait si bien dit, elle était devenue la porte-parole de tous ceux que personne n'écoutait jusque-là. Depuis son mariage avec Barakus, elle en était peu à peu arrivée à incarner la conscience du Conseil central, rappelant sans cesse à ses membres que leur devoir consistait aussi à protéger les êtres incapables de se défendre seuls. Les Flammes Nuits, par exemple, auxquelles elle avait rendu visite quelques jours plus tôt, avaient absolument besoin qu'on plaide leur cause. Si on ne les laissait pas en paix, ces créatures très fragiles finiraient par disparaître à tout jamais. Grâce à sa position d'épouse du premier sorcier, Magda avait pu venir défendre devant le Conseil les intérêts de toutes les minorités qui peuplaient les contrées du milieu. Parfois, quand on leur expliquait bien la situation, les responsables politiques trouvaient tout seuls une excellente solution. D'autres fois, il fallait leur forcer la main, souvent en les culpabilisant. En de très rares occasions, ils attendaient avec impatience son avis. Son statut perdu, Magda ne pourrait plus jouer son rôle devant le conseil. Qu'elle ait ainsi bénéficié de l'aura de son mari était injuste, certes, car la valeur d'une personne ne dépendait pas de la position de son conjoint. Mais le monde fonctionnait ainsi depuis toujours. Fière de s'être gagné l'amitié de créatures secrètes et fragiles que peu de gens normaux avaient simplement vues un jour, Magda avait fait l'effort d'apprendre leur langue chaque fois que c'était possible. En se comportant ainsi, elle avait obtenu la confiance d'êtres qui ne l'accordaient presque jamais parce qu'ils avaient été trop souvent déçus ou trahis par le passé. En 2 ans, la femme de Barakus avait fait nettement avancer la cause de ses protégés et elle en concevait une légitime fierté. Dans le même temps, elle était parvenue à améliorer les relations entre différents peuples, réconciliant également une multitude de tribus ou de clans. Ainsi, à sa modeste échelle, elle avait contribué à l'unité des contrées du milieu. En se suicidant, Barakus l'avait sans le vouloir privée du privilège de s'adresser directement au conseil. Désormais, elle n'avait plus de noble cause à défendre. En d'autres termes, il ne lui restait plus que sa vie, et celle-ci ne signifiait plus rien sinon une longue condamnation à la souffrance et au chagrin. Face à un calvaire dont elle n'entrevoyait pas la fin, Magda n'avait pas eu de mal à choisir la voie de la liberté. En tout cas, ce qu'elle préméditait mettrait un terme à son affliction. Ça, c'était sûr. Et les murmures dans sa tête l'imploraient d'en finir.